Fortune FM et les productions du Café de la Mogette présentent Un cheveu sur la langue, un...
Poids dans la main, payé à rien foutre, gardez la poutre dans l'œil du voisin.
Bonjour. Comment allez-vous ce joueur?
Comment allez-vous ce joueur?
Ah oui, bien sûr, bah, il me redit encore deux fois, c'est merveilleux, c'est moi qui, prends, bonjour, qui parle deux fois. Bah.
Bonjour messieurs.
Bonjour mesdames aussi. Alors, aujourd'hui, bah, c'est une émission spéciale, voilà, parce qu'aujourd'hui, je reçois bah, des invités, hein. Il y a comment... Ça y est, je ne me rappelle plus ton prénom, j'y arrivais. Alors, attends, bonjour, c'est Benoît.
Benoît, c'est ça.
Ben bah, voilà, je ne me suis pas trompé. Benoît et Patrick, voilà. Hein, salut Patrick.
Salut, salut.
J'aime beaucoup Patrick, parce que quand on dit salut Patrick, c'est une contre-pétrie. Bon, je ne dirais pas plus loin, parce qu'on ne va pas non plus exagérer. Mais, voilà. Et donc, c'est une émission spéciale, parce qu'on va parler donc d'un monsieur qui a créé une édition Ilaise sur les lieux, bien sûr, et puis d'un monsieur qui a déjà fait un bouquin qui est sorti à ses éditions et qui est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, on va avoir une heure avec ces deux messieurs, voilà, qui vont nous parler de ce qu'ils font, de ce qui va se passer, de tout, et vous saurez tout sur l'édition Ilaise. Mais vous ne saurez pas tout sur le bouquin de Patrick, parce que je ne vais pas raconter ce qui se passe dedans. Enfin, vous l'achetiez, puis vous le lisiez, parce que, en plus, c'est vraiment, tellement facile d'acheter. Mais en plus, c'est tellement beau, bien, bon, voilà, bien. Alors, on va commencer par l'édition Ilaise, n'est-ce pas? Édition Ilaise, un éditeur indépendant, installé sur l'Île-Dieu depuis 2024, donc c'est tout récent, hein, et l'objectif principal est de valoriser, de faire connaître le territoire et ses auteurs locaux, en mettant en avant les plumes de l'île. Édition Ilaise contribue à enrichir la scène littéraire et régionale, et à promouvoir la culture et les talents locaux. C'est beau, c'est bien dit comme ça. Hein,
ah, c'est très beau, oui.
Oui, mais enfin, c'est ce qu'il y a sur le site, hein, donc je reprends. Parce que, oui, mais c'est ce qui est marqué, je ne sais pas en tête, c'est marqué quelque part. Je l'ai lu, bah, oui. Donc, hein. Et donc, oui, parce qu'il y a un site qui s'appelle edition.iles.fr. Hein. Alors, bien sûr, il y a sans accent et en minuscule. Et ah bah, allez sur ce site, vous allez voir, vous allez tout comprendre dessus, sur ce qui s'est passé, tout ça. Donc, Benoît, c'est toi qui as créé ça?
Oui.
Comment c'était venu cette idée de créer une édition Ilaise?
Alors personnellement, j'ai toujours aimé les livres.
Oui.
Et ben, j'ai constaté que sur l'Île-Dieu, chaque année, il y avait 4 ou 5 nouveaux livres qui sortaient.
C'est ça, oui.
Et souvent en auto-édition. Donc c'est des auteurs qui faisaient eux-mêmes leurs livres et les faire imprimer. Et ça, c'est un peu compliqué pour eux. Et je me suis dit que pour tous ceux qui sortaient eux-mêmes leurs livres, il y en a sans doute beaucoup d'autres qui avaient écrit, qui avaient un manuscrit chez eux et qui n'arrivaient pas au bout de l'exercice d'aller le mettre en page et le faire imprimer, et que donc une maison d'édition, ça pouvait leur rendre service et que ça contribuerait à donner un petit peu d'éternité, parce qu'un livre, ça dure pour tout le temps.
Bah oui, forcément. Même quelquefois plus le temps, parce qu'ils font le leg après.
Hein. Ouais.
Et donc, Patrick, tu vas aussi parler en même temps. Tu ne vas pas parler de ton bouquin de tout à l'heure. Tu vas parler aussi maintenant pour l'édition Ilaise. Comment c'est venu, justement, cette rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah bah, c'est une forme de bouteille à la mer, dans le sens que j'ai vu dans l'écho qu'il y avait un zozo qui... on peut pas dire autrement, parce que moi, je dis quelqu'un qui fait de l'édition à l'Île-Dieu, c'est un peu abracadabrant. Presque incongru même. Je dis, bon, allez, on va lui envoyer un vieux manuscrit. Un vieux manuscrit, oui, c'est ça, on peut le dire. Ouais. Qui parle de l'Île-Dieu. Puis, bon, il faut dire que je dis, bon, on verra bien.
Hein, oui, bien sûr.
Comme ça. Et puis, il me répond.
Oh,
ah oui,
mon Dieu,
oui,
qu'est-ce qui se passe-t-il?
Sachant que dans cet écrit, c'était. On se connaît.
Oui, Yves, oui.
J'ai très peu été à l'école, donc c'est bourré de fautes d'orthographe, c'est un écrit un peu bordélique, faut dire la vérité. Je dis, c'est pas possible, il a apprécié.
Oui.
Alors je dis, bon, bah, on s'est rencontrés, il me dit, c'est génial ce que t'écris. Bon, bah, on l'a mis en forme, on l'a relu, il a passé beaucoup de temps, Benoît, à faire beaucoup de corrections d'orthographe, ça je dis, je sais pas comment il fait, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire là-dessus. On a réussi, en fin de compte, à créer presque ensemble ce bouquin. Mais bon, c'est vrai que l'histoire était déjà toute cousue. J'ai tout rectifié. Je lui ai remis des fautes d'orthographe. il a tout bien corrigé. Et c'est comme ça qu'est né, en fin de compte, ce bouquin.
Oui. On va parler tout à l'heure du bouquin. Hein, parce qu'en fin de compte, les fautes d'orthographe, ne t'inquiète pas, Victor Hugo en faisait plein aussi. Hein, donc, bon. Oui, bon, faut pas s'affoler. Et puis bon, il me semble que tu es allé à l'école pourtant. Mais bon, oui.
Je suis quitté l'école à 14 ans.
Bah oui, mais moi avant. Donc. J'ai bossé avant. Donc. Voilà. C'était l'époque où on commençait à travailler 8 heures par jour avant. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est parlé pour édition Ilès. Donc, un zozo, c'est comme ça que tu te définis, Benoît, ou pas?
Peut-être, c'est vrai que je suis un peu atypique parce que. Il y a pas de, on a un peu la nouvelle maison d'édition qui redémarre, c'est pas très porteur, les gens lisent de moins en moins malheureusement.
Oui, malheureusement.
Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, sur Internet, ou à regarder des vidéos sur des YouTube, sur TikTok ou je sais pas quoi d'autre.
Oui.
Le livre, c'est comme un objet qu'on peut toucher, qu'on peut offrir, qu'on peut partager, et c'est important. Et je pense que si je peux contribuer à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de lecteurs sur l'idieu, un peu plus d'écrit qui reste dans le temps, parce que l'écrit et le livre, c'est ce qui permet de partager, c'est la culture des gens, ça relie les gens entre eux, ça relie les gens à leur territoire.
Bah oui, tout à fait. Oui. Bah même les e-books aussi, c'est pas la même démarche, mais ça permet de pouvoir bouquiner, quoi, c'est ça. Bah, j'aime bien les deux, hein, donc il n'y a pas de problème. Et oui, je sais que pour les éditeurs, c'est pas terrible l'e-book. Hein.
E-book, moi je trouve ça très bien pour les gros pavés. Quand je lis sur le dos et que j'ai un gros pavé, au bout d'un quart d'heure, j'ai des crampes dans les bras, alors que sur un e-book, c'est tout léger et on peut lire un bouquin de 800 pages sans se faire mal au bras.
Il y a une autre, où c'est bien, c'est quand tu pars en vacances ou quand tu vas quelque part, t'as toujours ton bouquin, tu peux le mettre dans ta poche, alors que ça. Mais les deux sont intéressants, ouais. Mais par contre, ça m'est arrivé, je raconte l'anecdote, tu vas comprendre bien. Je lisais un bouquin à papier, puis j'avais lu l'e-book avant. Et à un moment, j'ai eu un mot, je comprenais pas, j'appuie sur le mot dans le bouquin papier. Parce que dans l'e-book, on peut appuyer sur le mot, tu as la définition du mot. Puis, oh mais non, il faut arrêter quoi, c'est un livre papier. Et là, donc, tu fais des livres papier.
Voilà. Oui,
hein?
Oui.
Et c'est vrai que c'est intéressant. Un livre papier, on le manipule, c'est un objet. Quelquefois, il devient très, très personnel, en fin de compte, quelquefois. Oui. Et c'est bien, justement, de vouloir faire ça. Faut pas oublier, sachez une chose, et tout le monde, je le dis et je le répète, c'est que si vous écoutez ou si vous vous laissez avoir par tout ce qu'on vous dit dans les petits carrés de plastique, là, vous allez vous abêtiser. Et l'imbécilité a ça de commun avec les maladies honteuses, c'est vrai, il est délicieux d'attraper, quoi. Mais si vous voulez être vous, votre personnalité, vous ne la faites pas comme ça, c'est vous qui allez la chercher. Et le bouquin, pour ça, c'est une mine extraordinaire.
Ça permet de rêver, de se projeter, d'imaginer.
Oui.
On peut souvent dépasser le texte de l'auteur pour aller plus loin. On dessine les personnages, là où devant un film à la télé, c'est très bien les films, j'adore les films à la télé ou au cinéma.
Oui.
Mais là, dans un livre, on imagine que la personne est plutôt grande, plutôt rousse, plutôt blonde, plutôt petite. Et ça fait travailler le cerveau et c'est drôlement bien.
C'est sûr, moi, quelquefois, ça m'est arrivé de lire des bouquins avant de voir le film, comme tu le dis, et quelquefois, on est un peu déçu parce qu'on s'était fait une histoire qui était plus jolie que le film, Nanner. Ça les apprendra.
Et pour l'auteur, ce qui est important, c'est presque les applaudissements. Le papier, c'est la concrète. C'est vraiment l'ultime, on dit « Ah, ça y est, on a quelque chose de réel ».
Voilà.
Ça, c'est important. Sur un ordinateur ou autre, c'est pareil. Mais dès que c'est matérialisé par un livre, du papier, c'est quelque chose qu'on peut retransmettre. Mmh. Et c'est une
concrétisation.
Ouais, merci, voilà, c'est concrétisation.
Oui, mais c'est vrai que le papier, ça restera papier. Puis moi, c'est bien, c'est quand tu sens l'odeur du papier et l'odeur de l'encre. Alors, bien sûr, maintenant, c'est des encres qu'il faut faire attention, maintenant, ce qu'on met dedans, n'est-ce pas? Alors, ça sent pas tout à fait pareil, mais il y a encore ce petit reliquat de papier avant. Et alors donc, pour monter une maison d'édition, au départ, je sais pas, ça me parle. Mais attention, quand je te dis zozo, c'est pas du tout quelque chose d'idiot, parce que heureusement qu'il y a des gens comme toi qui essayent des choses et qui font des choses, parce que si personne disait « Oh bah ouais, mais on peut pas se faire, on le fait pas », bah il y aurait jamais rien de fait. Donc c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. Un petit coup de cirage en passant, c'est pas mal.
Merci.
Mais
c'est une aventure.
Au départ, ça doit quand même un peu. Non, c'est pas angoissant. C'est comment ça se passe?
Non. Déjà, c'est passionnant. Mm-hmm. Une maison d'édition, on a besoin de deux choses. Il faut du moteur pour du carburant pour mettre dans le moteur de la voiture. Mm-hmm. Ça, c'est les auteurs qui viennent avec leur texte. Mm-hmm. Il faut après des clients qui achètent les livres,
bah oui,
pour qu'on puisse vivre, pour qu'en vendant un livre, on ait assez de sous pour faire un film suivant.
Bien sûr, oui.
Et entre les deux, il y a un travail passionnant de relation avec l'auteur. Mm-hmm. Le livre tel qu'il est aujourd'hui est très loin du premier manuscrit de Patrick.
Mm-hmm. Oui, bah oui.
Il dit qu'il écrivait très mal, pas tant que ça. L'orthographe, c'est pas très compliqué à corriger.
Non.
Moi, je sais que suite à la première lecture, alors on a un comité éditorial qui relie les manuscrits et qui fait des recommandations. Mmh. Et je suis revenu vers Patrick et je lui ai donné beaucoup de boulot. Mmh. Je lui ai dit, ça, c'est passionnant, mais là, ce chapitre-là, on reste sur sa fin. Il faut que tu m'en rajoutes 5 pages parce que ça suffit pas, on a envie d'en savoir plus. Et au début, je lui ai dit, ben voilà, tes personnages, il y a beaucoup de filles. On les aime, ces filles, mais ce serait bien de leur donner un peu plus de caractère, d'épaisseur. Donc, il a beaucoup travaillé pendant tout l'automne, parce que son manuscrit, tu as dû me l'envoyer fin août, et on a finalisé le boulot fin novembre.
Non, j'ai envoyé bien après, au septembre, octobre.
Début septembre.
Ah oui,
2024.
Oui.
C'est tout jeune.
Ah oui, c'est un bébé tout neuf. Mais comme je t'ai dit, j'ai balancé ça comme une bouteille à la mer, sans rien du tout préparer. C'était vraiment, voilà.
J'envoie ça comme ça, on verra bien.
Oui. Parce qu'effectivement, il voulait des bouquins, il voulait des manuscrits qui correspondent à l'île-dieu. Bon, comme j'en avais un sous la main, je dis, allez, vas-y, on ne sait jamais. Comme c'est très, très, très difficile, comme je disais tout à l'heure, de trouver un éditeur pour qui ce soit qui écrit, quelqu'un qui veut, entre guillemets, te lire déjà simplement. Ça suffit. Moi, quelqu'un qui me lit, déjà, j'ai une personne qui peut me lire, qui me comprend, qui me lit. Moi, dans les bouquins que j'ai faits, j'ai, à part ma compagne, c'est tout. Personne d'autre n'a lu.
C'est des bouquins très intimistes.
Non. C'est parce qu'en fin de compte, tu peux envoyer un manuscrit à tes amis ou n'importe quoi, la plupart ne le lisent même pas. J'en ai fait en imprimé, photocopie, et je me suis aperçu, en fin de compte, que c'était stupide. Parce qu'en fin de compte, ils disent, oui, c'est bien, ils t'ont lu 2-3 pages à tout casser, et c'est tout. Que Benoît, lui, l'a lu entièrement, l'a critiqué, et en même temps, on est rentré dans un jeu de refaire vraiment un livre. Et c'est très rare, en fin de compte, c'est même exceptionnel. C'est pour ça que je trouve ça génial, ce qu'a fait Benoît, parce que c'est un truc que personne n'aurait pas pensé à le faire.
D'accord.
Parce que, en plus d'être un éditeur, c'est quelqu'un qui t'accompagne à créer le livre. C'est quand même très important, parce qu'un éditeur ne se casse pas la tête, il a tout, tout est fait, pratiquement tout corrigé, que là, non, rien n'était fait. C'était au moins une maquette, presque.
Ouais. Créer, c'est un grand mot, l'améliorer un peu.
Oui.
Mais ce qui est bien, justement, c'est que c'est une petite édition, et ça, moi, je trouve ça bien, parce que ça reste à échelle humaine, déjà. Ce n'est pas des gros trucs qui essaient de faire best-seller, ça, c'est bien. Cette idée de... C'est le boulot d'édition, je pense, de prendre un manuscrit, de le lire, de faire un comité de lecture, et après d'en discuter.
Oui, tout à fait. Et pour essayer parfois de rejeter le livre, de répondre à l'auteur, désolé, on ne pourra pas le publier.
Oui.
Parce que ça ne correspond pas, ça m'est arrivé 2-3 fois, et ce n'est pas très drôle d'annoncer ça à l'auteur.
Oui.
Parce que quand Édition Ilaise refuse un livre, a priori, il n'y a plus grand monde d'autre qui va le prendre.
Ça, voilà.
avec notre comité de lecture, donc 6 personnes, alors anonymes, parce que comme l'île est petite, je ne veux pas qu'il y ait trop de tension quand un livre est rejeté.
Oui, après.
On reçoit tous leurs commentaires, on essaie d'en faire une synthèse qu'on donne à l'auteur, en disant, ben voilà, ton livre, ça c'est passionnant, c'est très bien. Là, il y a des manques, qu'on est un peu frustré, il faut le compléter. Ça, c'est peut-être un peu difficile. Au début, il y a des scènes un petit peu violentes. Et typiquement, on lui a demandé d'adoucir un petit peu, pour pas choquer trop nos lecteurs. Et il a accepté, il est rentré dans le jeu et ça a permis d'améliorer ce livre qui était déjà bien parce que moi, quand je l'ai lu pour la première fois, dès la page 30 ou 40, j'ai eu envie d'avoir la suite, de tourner la page.
Oui, même moi aussi. Généralement, un bouquin, ça me prend ou ça me prend pas, et c'est très rapide, hein, ça va vite. Après, on sent déjà, y a la manière d'écrire, le rythme du bouquin, ça vous plaît ou vous plaît pas. On peut pas aimer tout, hein, c'est sûr, mais quand on est dedans, on est dedans. On en parlera tout à l'heure. On va continuer à parler de
la ligne éditoriale de Benoît, c'est quand même un peu restrictif, dans le sens que ça concerne surtout ce qui se passe sur l'île-dieu.
Oui.
Donc, c'est vrai que peut-être beaucoup d'auteurs voudraient élargir que l'île-dieu ailleurs, même, voir d'autres histoires. Enfin, mais là, Benoît, je comprends très très bien, qui veut entièrement se consacrer dans une première partie que sur des faits qui ont une relation directe avec l'île-dieu. En plus, ce qui est bien avec Benoît, c'est qu'il s'intéresse uniquement aux auteurs qui sont à l'île-dieu. Voilà. Des auteurs qui habitent Paris, qui habitent je ne sais où. Voilà. Ça, c'est la ligne éditoriale. Sur ce côté-là, je l'approuve. Par contre, si elle pouvait être plus large, ça serait pas plus mal pour beaucoup de gens qui aiment la lecture.
Mais bien sûr.
Alors, c'est notre politique, c'est de dire, voilà, il faut mieux commencer petit en faisant bien les choses petitement, et après on grandira.
une petite musique en attendant. Ça s'appelle Refuge, c'est Stéphane Gauthier, et c'est un peu une vision du Nil, ce que ça peut être, justement, pour ce refuge au loin, lumière, beauté, etc. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être, non? L'île Dieu, le... Bon, d'accord, on écoute.
Le ciel emporte la mer vers l'autre bout de la terre. Sur la grève, un millénaire adouci de ronds de pierre. Sur le sable salutaire, des pas laissés en arrière s'effacent au vague mystère du marcheur. En cette calme délivrance, le cœur bat comme à l'enfance, euphorisé par l'immense, au vent parfum de résurgence. Du regard on cherche une île, un refuge à l'inutile, on y échoue à des mille, vérité simple. Des millions d'années qui se bercent dans ce va-et-vient. L'immense agité caresse et apaise le chagrin. Évadé du vaste moule, du pénitencier des foules, j'apprivoise de pensées douces. Cœur effarouche, habitant d'un autre monde où se vendent les secondes, je découvre entre les dunes le vaste calme pour fortune. Des millions d'années qui se bercent dans ce va-et-vient. Agité, caresse et apaise le chagrin. Sur ces plages, aucun délire s'enracine pour l'avenir, ne reste que des souvenirs qu'emportent au loin les navires. Dans les villes du monde entier s'évaporent aux cheminées les mers, les mystères rencontrés, l'horizon de liberté.
Stéphane Côté, un Québécois, qui chante donc Refuge, une des milliers d'années qui se bercent dans le va-et-vient, sur les vagues, bien sûr, c'est cela. Et c'est monsieur Stéphane Côté. On reprend, nous, notre petite discussion avec Benoît et puis Patrick. On a été toujours dans l'édition Ilaise, hein, donc on voit que maintenant, alors, donc, une édition par rapport à monsieur qui fait un bouquin, si j'ai bien tout compris, hein, je me répète, le monsieur, il écrit, ou la dame, bien sûr, encore, attention, on va me dire encore, oui, il pense qu'il y a de Kokonokoga, alors qu'en plus, le bouquin, il parle que de filles, hein, donc, et donc, oui, non, c'est pas ça. Enfin, qu'on sait bien, c'est qu'on peut écrire, on peut même faire des fautes d'orthographe, je vous ai déjà dit, et c'est vrai que Victor Hugo en faisait beaucoup avant, et puis après, ben, l'éditeur, et puis le comité de lecture permet de peaufiner le bouquin, de le structurer un peu, et quelquefois c'est ça, c'est le cadrage du bouquin, en fin de compte, c'est comme dans, t'as une photo, puis il faut la cadrer, c'est ça, non ?
Tout à fait. Hein.
Et puis donc, à partir de là, on édite un bouquin. Alors, moi, ce que je savais, c'est que quand même, on le fait éditer, donc il faut trouver un imprimeur.
Oui.
Il faut trouver, comment on appelle ça, le composer, faire la couverture, etc.
Oui, toute la conception, ouais. La mise en page, la couverture. Et les imprimeurs, en plus, sont des formats assez stricts pour imprimer. Il faut le faire un petit peu plus grand parce qu'ils l'impriment et après ils le découpent.
Bah oui, bien sûr, oui.
Faut vérifier les couleurs parce que c'est pas comme sur une imprimante. On imagine qu'on appuie sur le bouton que ça s'imprime.
Non, pas du tout.
Ils ont un système de couleurs différent des ordinateurs. Donc, faut travailler là-dessus.
Et après, c'est le bon à tirer.
C'est le bon à tirer.
Et donc, le bon à tirer. Et après, à combien on les édite au départ? Il y a un minimum. Comment on sent combien il faut en tirer
Alors, le premier livre qu'on a sorti, c'était en juillet dernier, on en a tiré 1200 exemplaires. C'était sans doute un peu beaucoup.
Oui.
Désormais, je tire à 500 exemplaires. Donc le livre de Patrick, là, Les évadés de l'île d'Oya, on en a tiré 500 exemplaires. Et je pense qu'on continuera comme ça.
Oui.
Pourquoi 500? Faire moins que 500, ça coûte trop cher par exemplaire. Parce que l'imprimeur, une grosse partie de son travail, c'est de caler sa machine, comme
c'est
on dit.
Ça, oui.
Il doit rentrer le fichier dans sa machine, faire tous les réglages, bien aligner, vérifier que ça se passe bien. Une fois que c'est bien calé, il en sort deux ou trois pour vérifier. Après, c'est le prix du papier, plus un peu d'encre, mais pas très cher. Donc, en dessous de 500, ça me revient trop cher au prix du livre. Après, en imprimant 1200, faut les stocker. J'ai un garage, mais c'est pas un garage pour ranger quatre camions, donc faut pas que j'en ai trop. Donc, je pense qu'on va continuer sur 500. Quitte à faire réimprimer si ça se vend très bien.
Parce que c'est possible de faire des réimpressions, en plus.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait. Et donc là, tu parles du bouquin qui était paru au mois de juillet. C'est celui qui parle de dans les silences de l'île-dieu, c'est celui-là?
Dans le silence de l'île-dieu, oui. Qui est une balade autour de l'île. Avec des jolies illustrations en aquarelle de Florence d'Aboville et des beaux petits poèmes, des haïkus rédigés par Monique Malissard,
que tout le monde connaît.
Que tout le monde connaît.
Bah,
le polisson, on le voit souvent sur
Et c'est vrai que moi, je l'ai lu parce que, en fin de compte, c'est bien. C'est des bouquins que tu peux lire, revenir en arrière, aller en avant, prendre homéopathie, tu prends une ou deux, par le soir, et puis, etc. C'est des bouquins qui sont vraiment intéressants parce que c'est des aquarelles. Il y a autant à regarder qu'à lire. Alors, je sais pas, là, j'aime bien, je prends celui-là au hasard, sur les chemins côtiers, ici, sur les flancs des rochers, l'île se maille à la mer, entre cap et pointe, s'écrit que nichée. Ça, c'est du Monique, hein. J'ai ces petits trucs comme ça avec quatre lignes, et puis, où elle dit aussi, voilà. Et puis, là, elle parle de comment des cabanes, qui sont fermées, les cabanes de pêcheurs. Bon, l'hiver, c'est fermé. Puis elle dit, quand reviendront-ils? Samedi prochain, peut-être. S'il fait beau. Et c'est des petits trucs comme ça qui donc émaillent ces aquarelles. On fait une balade sur l'île-dieu avec ce bouquin. Donc c'est celui-là qui a été édité au mois de juillet.
Voilà, qui est sorti début juillet. Alors ce bouquin, comme tu disais, c'est intéressant parce qu'on le lit une première fois, on commence par faire un tour de l'île.
C'est ça.
Après on se promène un peu à l'intérieur. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit ce qui est drôlement bien, c'est qu'une fois qu'on l'a lu, on l'ouvre une page comme ça et on prend le temps de s'imprégner de la jolie aquarelle. Du poème souvent très gracieux, parfois un peu taquin ou coquin, avec le joli style de Monique.
Ouais.
Et voilà, c'est un livre éternel, je dirais.
Oui, là, je regarde une autre au hasard. T'as une aquarelle qui représente une plage avec des rochers au fond, puis il y a une grosse encre marine dessus calée sur un rocher. Et puis le petit truc qui va avec, c'est rescapé des fonds, elle résonne encore du chant des poissons. C'est très simple, mais ça donne un petit plus à l'aquarelle. Et puis ça fait un joli petit bouquin qu'on peut emmener, qu'on peut lire à des gamins aussi en plus.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est le premier bouquin. Il y a eu beaucoup d'autres bouquins édités, non? Il y a que ces deux-là pour le moment ou c'est...
Pour l'instant, il n'y en a que deux.
D'accord. Il y en a en route
Oui, on a beaucoup de projets.
Voilà.
Pour 2025, j'espère bien en sortir 4 ou 5.
Bah dis donc, waouh. Ça va prendre de l'expansion, hein. Plus il y en aura, plus les gens vont lire, plus ils vont être intéressés, et puis ça va aller. En plus, alors, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, c'est des bouquins qui d'auteurs qui sont sur l'île Dieu, hein, qui vivent sur l'île Dieu, et puis qui parlent de l'île Dieu pour le moment. Alors, bon, Monsieur Vienne trouve que c'est un peu restrictif. Je suis d'accord avec toi aussi, parce que on peut être très bien vivre sur l'île Dieu et s'intéresser à autre chose que l'île, et donc parler d'autre chose. Mais c'est vrai qu'aussi, je suis... Je suis aussi d'accord avec Benoît, parce qu'en fin de compte, au début, ben oui, il faut bien commencer par un début, et se focaliser sur l'île Dieu, c'est pas plus mal. Et puis après, en fonction de la grandeur, en fonction aussi peut-être de ce qu'on diront les lecteurs, parce que il y a un truc quand même dont il faut que je vous parle, que je dois vous parler, quelle est la France, quel français, c'est le petit site qui s'appelle, donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, edition.ilès.fr. Là, vous savez tout, hein. Vous savez pourquoi c'est fait. Il y avait les différentes catégories qui sont vues dans cette édition Ilès, et puis les points de vente, parce qu'il n'y a pas un point de vente, hein, bien sûr. Alors, les points de vente, il y a la Maison de la Presse, bien sûr, mais aussi l'Abri du Marin, Galerie Pélagie, même chez Tintin, la Maison d'Oya, Intermarché, le Comptoir de la Mer, la Fabrique à l'Île-Dieu, et puis, à contre-courant.
Oui, hein, à contre-courant, donc Anne-Sophie, qui est sur sa librairie itinérante en été, et qui se déplace pendant l'hiver, qui pour l'instant est rue Guistaud.
Ça aussi, c'est une belle idée, je trouve.
Je trouve aussi.
Allez, quand les bouquins ne peuvent pas, vous ne pouvez pas aller aux bouquins, bah, laissez-les venir les bouquins chez vous. Et c'est bien justement que quelqu'un ait cette envie justement d'aller porter quelque part la bonne nouvelle aux gens. Enfin, disons, les bouquins, ça permet de lire. Mais il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi à Nantes et à Chalons.
Oui, hein, tout à fait.
Il y a chez Coueffert, la librairie de la rue de la Fosse. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas rien que par plaisir, rentrez dedans, vous allez voir. Là, vous allez rentrer dans c'est magique, Coueffert. C'est vieux, c'est pas tout neuf.
Hein. Ah oui, des vieilles librairies leurs étagères, il y a des échelles pour les bouquins tout en haut.
Il y a une annexe de l'autre côté pour les livres de poche, quoi, maintenant. Ils ont agrandi. Hein, donc,
un petit bijou.
Quand j'étais gamin, j'étais à Nantes, j'allais souvent là, ça sentait bon. Je travaillais juste à côté là. Souvent j'allais chez Coueffert parce que c'était c'est Alibaba. Quand tu aimes les bouquins, c'était Alibaba à Coueffert. Et puis à Chalons, il y a Espace des Prix, là je connais moins. Mais c'est la même chose, c'est Espace où ?
C'est une grande librairie qui fait Maison de la Presse, qui est dans le centre de Chalons. Je crois que c'est la grande.
Ah, c'est près de la Poste, de l'autre côté, à côté de la Poste, hein, c'est pas ça ?
Honnêtement, je ne sais pas où est la Poste de Chalons.
Ah bon, c'est à côté de Desprez, je pense. Il me semble que si c'est ça, ça doit être ça. Mais une librairie à Chalons. Donc, à Chalons, à Nantes, ceux qui nous écoutent sur le continent, ceux qui nous écoutent aussi par le biais de neptunefm.com, par l'Internet, et ben voilà, déjà à Nantes, il y a quoi faire. Vous pouvez trouver ces deux bouquins, donc celui de Monique Malissard et de Florence Daboville, Dans le silence de l'île-dieu, aquarelle et petits poèmes, et puis un bouquin dont on va parler tout à l'heure, bien sûr, on va y aller tranquillement, Patrick Vienne, Les évadés de l'île d'Oya. Ça y est, j'ai dit le titre. Hein.
Alors, juste avant, pour ceux qui sont ni à Nantes, ni à Chalons, ni à l'île-Dieu, on fait aussi de la vente en ligne sur notre site internet.
C'est ce que je voulais dire, parce que j'étais parti sur le site. Heureusement que tu me rattrapes, parce que autrement j'étais parti dans un délire encore. Mais il y a possibilité. Enfin, le site d'abord est très bien fait.
Merci.
Mais c'est vrai qu'il est simple, en fin de compte. Il est clair, il ne faut aller pas chercher à droite, à gauche, on appuie sur un pavé et pouf, on se trouve dans ce qu'on veut, il y a des chapitres. Et puis il y a, si vous voulez acheter en ligne, allez-y. En plus, alors là, c'est encore mieux, c'est que non seulement tu peux acheter en ligne, si tu n'es pas sur le lieu, le bouquin te sera expédié, mais si tu es sur le lieu, tu peux demander à ce qu'on vienne te le porter à domicile.
Voilà, et dans ce cas-là, il n'y a pas de frais de port.
Il n'y a pas de frais de port. Voilà, c'est bien. On te rend compte un peu. Il n'y a même pas de frais de port. Après, oui, il y a des frais d'apéro, forcément, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est ça qui est bien. C'est bien habiter une île aussi, c'est que ça reste à échelle humaine. C'est ce qu'on aime bien sur l'île Dieu. C'est ce qu'on va voir aussi dans le bouquin aussi, parce que l'échelle humaine est liée à l'île Dieu. Avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, bien sûr. Je ne vais pas tout dire sur le bouquin. Sur l'édition Ilès, qu'est-ce que tu as à dire ? Est-ce qu'il y a des projets ? Alors, on a vaguement parlé de différents, enfin, 4 ou 5 bouquins cette année, peut-être ?
Oui, alors, courant avril, pour Pâques, il y a un recueil de 12 contes sur l'île Dieu, qui mélange 4 ou 5 contes traditionnels, le Pont-Dieu, la Gargourite, les Corbeaux, la Pierre Tremblante, et qui doit avoir 7 ou 8 contes nouveaux, que je trouve très joli, écrit par une jeune femme, alors qui est résidente secondaire, mais bon, elle passe quand même beaucoup de temps sur l'île d'Yeu.
Personne n'est parfait.
Qui a une très jolie plume.
Je rigole. Oh.
Et c'est des contes pas directement pour les gamins. Ils sont bien écrits, ils sont très littéraires et poétiques, c'est plus pour les adultes, mais qui peuvent très bien les raconter aux enfants. Mais un garçon ou une fille de 7 ou 8 ans, si on lui met entre les mains, il trouvera peut-être le style un peu compliqué pour lui.
Bah oui.
Donc voilà, c'est des contes pour adultes qu'on peut raconter aux enfants. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et puis, j'espère bien en sortir d'autres. Là, j'ai deux romans sur lesquels je travaille. Un qui est contemporain, un autre pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai un projet que j'espère pouvoir signer prochainement avec le service patrimoine de la mairie.
Oui.
Pour reprendre l'exposition sur les conserveries qu'ils ont fait l'été dernier,
une très belle exposition.
Et l'idée, c'est de la transformer en livre, pour que les gens qui n'ont pas pu voir l'exposition puissent découvrir ce sujet passionnant, et ceux qui l'ont pu la voir puissent revenir dedans et prendre le temps de mieux comprendre. Et alors, ce sera peut-être plutôt pour 2026, également, le projet d'une petite bande dessinée par une jeune femme illaise, qui habite l'île d'Yeu, qui a pas 25 ans, ou presque 25 ans, et qui a une très jolie plume, qui dessine très bien, donc j'espère pouvoir sortir une petite bande dessinée gentille, parfois un peu satirique, qui devrait faire rire un peu.
Ah oui.
Mais c'est beaucoup de travail la bande dessinée, donc ce sera peut-être que 2026, parce que ça prend beaucoup de temps.
Bah oui, ça prend du temps. Il n'y a pas que la bande dessinée qui prend du temps. Je peux te dire, il y a plein de choses qui prennent du temps, mais si on va faire quelque chose de bien, il faut prendre son temps.
Oui.
C'est vrai. Mais c'est vrai que le bouquin sur les cartes conserverées peut être vraiment très intéressant, parce que non seulement ça peut être intéressant pour ceux qui ont vu l'exposition, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais quelquefois une idée de cadeau à Noël, tout ça, pour donner une autre vision de l'île d'Yeu que celle qu'on, enfin, qui n'est pas sempiternelle, mais si, le côté touristique qu'on connaît avec les points, le port de la Meule, etc. Là, c'est l'histoire de l'île d'Yeu, et c'est important, bien sûr, bien sûr.
Et ça restera, si c'est dans l'exposition, elle est restée pendant 4 ou 5 mois qu'il y a du Canada, elle a été démontée.
Ah oui, c'est ça.
Si ça finit dans un livre, dans 20 ans, 50 ans, peut-être 100 ans, il y a des gens qui pourront retomber sur ce livre et le relire et dire, tiens, c'était comme ça dans les années 30, dans les années 50, puis la fin des conserveries dans les années 80. Ça, c'est l'histoire, il faut que ça reste. C'est une manière de...
Ah bah oui, tout à fait.
De rentrer dans l'éternité, le livre.
Voilà, absolument. On va, maintenant, ça y est, on va parler, bien sûr, de... hein, on va parler du livre de M. Patrick Vienne. Mais avant, une petite chanson avec, justement, comme ça, à parler des dames, et que c'est vrai qu'à l'époque où ça se situe, c'était pas tout à fait le même pastis. Hein. Il y a même plus de différence entre les mâles et les femelles, c'est le cas de le dire. Et même maintenant, d'ailleurs, on trouve ça. D'ailleurs, il y a une chanson que je vais vous faire écouter, ça s'appelle Agnès Bille, et ça dit « Attention, fragile ». Et la dame en question s'habille en fille, parce que c'est plutôt un garçon manqué au départ. Et j'aime bien cette... On va dire que c'est une chanson féministe un peu, mais elle est vraiment sympathique. Agnès Bille, Attention, fragile.
Attention, fragile, ce soir je me déguise en femme. Attention, fragile, je serai seule et sans larmes. Je défroisse mes cheveux, je m'habille d'un bijou. Et comme je ne peux pas faire mieux, alors je recommence tout. Plus qu'une heure et je nous aime, mais dessous mon décolleté, j'ai le cœur en quarantaine. Fille ratée, garçon manqué, en attendant je t'attends. En attendant je t'attends. Alors je fais de mon pire, dans les couloirs de l'amour. Une jupe en simili-cuir, un soutien-gorge de velours. Et bien sûr, dans le miroir, la morsure d'un rouge à lèvres. Fille ratée, pauvre scénar, fille ratée, mauvaise élève. En attendant, je t'attends. Pour le meilleur ou pour le pire, la traversée du désir. Attention, fragile. Attention, fragile. Il y a des dagues à chaque fois, quand il y a des bagues à chaque doigt. Vernis rouge sur mes griffes, comme un bijou belle époque. Une vilaine cicatrice sous mon corsage un peu rock. Le refrain d'une banale song, l'ampoule qui vient de cramer. J'ai encore mangé mes ongles, fille ratée, garçon manqué. En attendant, je t'attends. En attendant, je t'attends. Mais sur des talons trop hauts, je suis ma meilleure ennemie. Et j'ai le cœur à zéro. Je suis presque mon sosie. Des bas noirs, un goût de peur. Besoin de ce qui me manque. Et double peine de cœur. Fille ratée, mauvais exemple. En attendant, je t'attends. Pour le meilleur et pour le pire, la traversée du désir. Attention fragile, petite joueuse, manque de cran pour que tu m'aimes à bout portant. Le silence vient de se taire, et bien sûr, il fait trop chaud pour les normales saisonnières. Fille ratée, femme ruisseau, je te porte dans moi. Mais avec une fin sans fin, et les yeux fermés sur toi, quelques gouttes de parfum. En attendant, je t'entends. Quand tu m'ouvres comme un livre, simplement pour faire joli, je me sens mourir de vivre, plaisir des sens interdits. Alors attention fragile, et fissure originale, ou bien sûr manque de style, fille ratée, femme normale. En attendant, je t'attends. Pour le meilleur, et puis c'est pire, la traversée du désir. Attention fragile. Attention fragile, tu poses ta griffe et puis tu signes. Comme j'ai pas déposé plainte, tu t'endors sur les lieux du crime. Et tu m'as laissé tes empreintes. Attention.
Attention, fragile, Agnès Bill. Ça rime avec fragile, n'est-ce pas? Et maintenant, ben, on va passer directement, là, on va passer à Monsieur Vienne, Patrick Vienne, bien sûr, que personne ne connaît, n'est-ce pas, Monsieur Patrick?
Pourquoi?
Mais si, on le connaît, mais pas comme, comme romancier. C'est ça, on dit ça maintenant, romancier, écrivain. Oui. Hein, parce que, avant d'avoir une plume, est-ce que tu as une écriture en pâte de mouche, d'abord?
Oui.
Ben ça tombe bien, parce qu'avant, tu t'occupais des abeilles. Donc, on reste dans l'insecte.
Ah, oui, oui, oui,
ben
oui.
Parce que Patrick Vienne, tout le monde le connaît, ce monsieur qui a fait fabricant de rennes.
Non, fabricant, éleveur de rennes.
Oui, non, mais c'était... Ah ben oui, mais attends, c'était impensable. Alors, ce qui était bien, c'est quand tu es allé chez lui pour voir ses rennes, parce qu'il était très ouvert. Quand tu allais, c'est un monsieur qui a toujours aimé montrer ce qu'il faisait. Et c'est vrai, alors ce qui est drôle, moi, quand je suis allé chez lui, bon, je le connais bien, puis on est allé plusieurs fois, mais les premières fois, quand tu viens, tu vois, il y avait un paquet de ruches, il y avait des abeilles partout, et les rennes, enfin, il m'a expliqué comment on fait, comment il faisait, et alors ce qui était, moi, ce que j'ai retenu, hein, c'est un peu idiot, mais enfin, un truc, c'était qu'il y avait plein de poules aussi. Je dis, mais comment ça se fait? Il dit, parce que les abeilles, bon, en fin de compte, ne vivent pas longtemps, et quand elles meurent, les poules, elles bouffent les cadavres d'abeilles par la tête. Et donc, il y avait une cohabitation, et ce qui est intéressant quand on allait chez toi, c'était qu'automatiquement, on était calme. Parce que tu disais que les abeilles sont, on était calme, et bien c'est vrai qu'elles ne nous agressaient pas.
Voilà.
Et c'est vrai, quoi. Et donc, tu as donc fait un éleveur de rennes, c'est ça qu'on disait?
Éleveur de rennes.
Éleveur de rennes. Mais pas des rennes avec des grandes cornes, non, des rennes d'abeilles.
Pas chez le Père Noël.
Voilà. Il n'y avait pas de traîneau.
Non. Hein.
Et donc, ça a bien marché en fin de compte.
Ah oui, bah, pendant 40 ans, j'ai élevé des rennes caucasiennes. C'était un sanctuaire de la reine caucasienne qui était à Lille-Dieu.
Voilà.
Il y en avait un qui était en Russie et l'autre ici.
Ici, voilà. Avec des exportations dans le monde entier.
Voilà, exactement.
Oui, c'est sûr. Et puis, bah là, si, parce que tout le monde t'a pris pour un zozo au début, il faut bien le dire.
Oui.
Autre zozo, mais c'est
un
bien.
Un peu massacré, même.
Non, bah oui, bah nous, on s'est connus. Bah je me rappelle la première fois qu'on s'est connus, et je faisais correspondant pour West France, et on m'avait dit, c'était Jacques Benoît qui m'avait dit, on a empoisonné les rennes, des ruches qui t'appartenaient. Hein. Donc, c'était un champ à Jacques, je sais plus.
Oui, hein. Peu importe.
Donc, on s'est rencontrés comme ça. Des gens, parce que comment Patrick n'était pas, il ne vivait pas comme les autres, c'est pas bien, quoi. Quand on est marginal, puis qu'on suit pas quelle horreur, poids, ben, faut le faire chier, puis on est jaloux. Alors donc, ils avaient empoisonné ces ruches. C'est incroyable. Hein.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on s'est connus, puis, moi, j'ai bien aimé le monsieur, voilà, c'est ça. Parce que j'aime bien ces gens, justement, qui sont un peu marginaux, enfin, c'est même pas marginal, ils font ce qu'ils ont envie de faire, comme toi, comme plein de gens. Ça gêne personne, mais ça emmerde tout le monde. C'est bizarre, ce truc-là. Alors que s'il n'y avait pas des gens comme vous, il n'y a rien qui se passerait, quoi.
Ouais. Voilà, on fait des choses un peu marginales, c'est vrai, l'édition, l'élevage de rennes, même à la limite écrire, c'est marginal.
Mais oui.
Mais c'est la bonne marginalité. Être en marge, ah, ça veut dire aussi être à côté d'eux, et donc c'est mieux que d'être dans le trou.
Bah oui, dans le troupeau, bien sûr. C'est l'individualité, je dis, j'ai déjà en ai parlé, mais si on veut avoir sa personnalité, bah, il y a un moment, il faut qu'on se
marginalise.
Je ne peux pas dire qu'on soit au-dessus des autres.
Non, mais qu'on se marginalise, qu'on soit sur le côté.
Voilà, et puis qu'on regarde, qu'on soit différent. C'est des différences que deviennent les trucs merveilleux.
Alors moi, je suis persuadé que les abeilles de Patrick lui ont inspiré ce roman. Il m'a dit que non.
Ah oui?
Mais les abeilles, c'est une civilisation de filles. C'est que des filles,
ah,
les abeilles.
Ah, bien, oui.
Il y a la reine qui est la madame, et toutes les autres, c'est des filles. Et son roman, c'est un roman de filles. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose dans les abeilles qui a dû l'inspirer.
Alors, moi, je vais vous lire le petit résumé.
Tous les écrits que je fais sont toujours pour sublimer les femmes, en général.
Voilà.
C'est toujours les victimes ou qui se vengent un petit peu à un certain niveau. Et c'est vrai que... vu par un homme le côté féminin, c'est pas souvent. Et donc, je trouve que c'est passionnant de décrire au féminin en tant qu'homme.
Ouais, mais c'est bien. Alors moi, je vais lire la dernière de couverture, hein, qui parle de résume le livre, ça s'appelle « La guerre de Cent Ans bat son plein. En cette période troublée, l'île-dieu relativement protégée de la guerre est régie par un clergé aux pratiques douteuses. » C'est une redondance, hein, parce que bon, sans réel contre-pouvoir pour les contrôler, les moines à chaque occasion manipulent les îlets et leur font perdre leur bon sens. Pour échapper aux noirceurs du clergé et des hommes, six jeunes filles modernes et entreprenantes, en quête de liberté, nous entraînent dans une longue épopée qui les mène par la terre et sur les mers, aux confins du monde connu de l'époque. Et c'est librement inspiré de l'histoire, trépidant parfois, extravagant, ce roman teinté de féminisme est une aventure résolument optimiste. C'est vrai aussi. Grâce à leur amitié et leur solidarité indéfectible, les héroïnes traversent les épreuves des ténèbres vers la lumière. Vont-elles réussir à s'évader vers un nouveau monde meilleur? On ne le dira pas.
Ah ben non.
Bah non, parce que...
Bah si, ça existe, hein, le monde meilleur féminin.
Oui, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que là, j'ai plein de trucs. Bah, j'ai noté des petits passages, mais je ne sais même pas, parce que résumer le livre à quelques passages, c'est un petit peu... bizarre, quoi, hein. Mais c'est vrai que toutes les héroïnes, enfin tous les personnages du livre, eh bien ils sont vraiment attachants, quoi.
Ben, surtout qu'en fin de compte, la base, c'est le tomber par hasard sur une île qui est en Estonie, qui s'appelle Kinu,
oui,
et qu'une île qui est à la base que des femmes.
Oui.
Et ça, c'est génial.
En fin de compte, c'est que tu as écrit le livre à l'envers, en quelque sorte.
Oui.
Hein,
oui.
Parce que alors tu parles de Kinu, enfin l'île de Kinu, hein,
oui.
Et puis
ils sont en plein milieu d'une mer, elle est très éloignée.
Oui, oui, bien sûr, oui.
Elle est comme l'île-dieu.
En Baltique.
On peut dire c'est une île qui ressemble un peu à l'île-dieu, où ils sont à peu près 600-700 femmes,
oui,
qui vivent là-bas, qui à l'origine même, quand on recherche un petit peu sur ne serait-ce que Wikipédia ou autre, ce sont des femmes qui ont du caractère, parce qu'en fin de compte, elles ont viré les bonhommes. Les bonhommes, c'est presque un peu comme dans les mâles, tu parlais des abeilles, c'est un peu, une fois qu'ils ont eu la fécondité des hommes, allez, virer. Voilà. Et c'est un peu ça.
T'as raison, il a bien vu les abeilles pour ça,
ah ouais, c'est
ça. Et c'est vrai que Kinu existe. Et donc, alors, eh bien, dans ce livre, on va rencontrer Océane, Kinu, Aléis, Yona, Madame Jeanne de Belleville, même, et sa fille, Mademoiselle. Puis aussi, alors, il y a des mots que je trouve bien, c'est, il y a la rayonite, ou la rayonite, tu dis rayonite,
oui,
comme on veut, hein. Et la palvardo.
Oui, bah, bon, j'ai essayé de mettre des noms un peu insulaires, mais déformés, hein,
bien sûr, oui.
Pour Orzono, palvardo, Rayonite.
Oui. Bon. Rayonite, oui. Dragonite, bien sûr.
Bah, voilà, t'as tout compris.
Et puis voilà. Alors ça se passe vers 1350. Hein.
Oui.
On est sous le règne des Valois.
Voilà,
hein, Philippe de Valois, okay, et puis etc. jusqu'à Charles VIII, c'est pas à peu près en gros. Et donc, au départ, c'est un juif.
Hein, oui,
c'est un voilà, commerçant juif, parce que, bah oui, le commerce était fait par les juifs souvent. Bah. Et d'ailleurs, à l'époque aussi, ils n'étaient pas bien vus non plus. Hein.
Non.
Il fallait qu'ils soient distingués, parce qu'il y avait des conciles même qui avaient dit on va distinguer les juifs et puis les musulmans des bons chrétiens. Donc, on va leur foutre une petite rondelle quelque part. C'était pas l'étoile, mais ça ressemblait à ça. Hein.
Oui, oui.
C'est pas des bêtises, c'est vrai, ces trucs que je vous dis là.
Et encore, on était très gentils, parce que normalement, les juifs ne pouvaient pas se marier avec un catholique.
C'est ça.
Proscrit.
Et donc là, le juif, lui, il voudrait avoir une descendance.
Et
Il veut s'intégrer, entre guillemets, dans la noblesse.
Ça commence comme ça, le bouquin. Et donc, il y a une description du monde. Alors, il y en a qui trouvent, il y a des lecteurs, hein, tu disais, Benoît, qui trouvaient ça, quelquefois, un peu glauque.
Oui, le début, on est un peu dans le monde du nom de la rose.
Oui, c'est un peu ça.
Moyenâgeux, avec un clergé, des moines un peu excessifs, qui ont tendance à brûler tout le monde dès qu'il y a du Satan. D'ailleurs, tu parlais au début de la quatrième page de couverture. Il y a eu un commentaire en début d'année de notre ancien curé, Monseigneur Réseau, sur YouActu,
oui,
qui a dit, vous êtes sévère avec le clergé de raconter tout ça, mais qui a conclu très gentiment en disant, bon, c'est vrai que c'était au Moyen-Âge et les mœurs ont changé depuis.
Oui. Bon, on va dire oui. Mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai pas trouvé ça glauque du tout. J'aime bien aussi le Moyen-Âge, donc je suis habitué à lire justement ce qui se passe, mais quand tu prends les piliers de la Terre, par exemple, de Ken Follett, qui est connu aussi, hein, qui se passe au Moyen-Âge, c'est pas tendre non plus, hein. C'est en Angleterre, mais là aussi, ça y va, hein, les gars qui se tapent dessus, qui se tuent, qui s'étripent, etc. C'était ça, et malheureusement, c'était ça. Et donc, là, tu parles de ça, justement, avec des gens qu'on aime bien, puis d'un coup, ils meurent. Hein. Mais c'est dans le bouquin, quoi. Ça fait mourir des gens gentils. C'est
pas... Mais même, à la limite, dans cette époque-là du Moyen-Âge, le côté inquisition, le côté torture, c'était une normalité. C'était commun. On soumettait à la question, c'était une torture. Automatiquement, la violence n'est pas la même, dans le même état d'esprit qu'on a actuellement. C'était vraiment, c'est normal, il passait à la poire de torture. Ça lui faisait un peu mal, mais c'était normal. Quand on castrait, c'était normal.
Ça aussi. Hein? Ben, monsieur Bellard, il va avoir quelque chose. Et le supplice est Bellard, comme on disait. Et donc, c'est vrai que souvent, les femmes, si elles faisaient. Quelquefois, quand elles guérissaient un petit peu, il y avait des dames qui savaient ce qu'étaient les herbes, n'est-ce pas? T'en parles dans ton bouquin. Et elles arrivaient à guérir les gens, mais c'était pour loin de la sorcellerie, parce que les curés n'aimaient pas je pense qu'ils n'aimaient pas qu'on piétine leur précaré, quoi. C'était eux qui savaient tout. Et si quelqu'un commençait à avoir une science, c'était pas bien, quoi.
Mais surtout une femme.
Ah oui. Alors donc, souvent, on les mettait comme sorcières, n'est-ce pas? Hein? Et même si c'était des épicières, quelquefois, elles devenaient sorcières. Ça, c'est l'enchaînement pour la chanson de Trenet. L'épicière est une sorcière. On revient sur ton bouquin après.
L'épicière est une sorcière. Je l'ai vue quand elle volait. À cheval sur un balai, filant droit au rendez-vous, où le diable, je vous l'avoue, l'attendait. Il y avait au fond d'un gouffre des morts brûlants dans du soufre. L'épicière est une sorcière. Je l'ai vue quand elle sortait. Du tronc d'un cèdre enchanté, il y avait au creux de l'arbre un palais d'or incrusté dans du marbre. Lucifer et Belzébuth venaient y faire leur culbute.
Bonsoir petit, qu'est-ce que tu veux? Quelques olives ou bien un peu de bon râpé? Du saucisson, des pois cassés ou des bambins?
L'épicière est une sorcière. Je l'ai vue dans un placard. En soutane et fichu noir, pendu, le visage exsangue, et tirant devant un bougeoir une grosse langue. Comme j'avais peur qu'elle m'emporte, vite j'ai refermé la porte. L'épicière est une sorcière. Je l'ai vue par tant de bises. Ricaner au fond de l'église, quand elle grimpe en haut des tours, elle comprend ce que lui disent les vautours. Il paraît que monsieur le curé en est même très effaré.
Eh bien, réponds, qu'est-ce que tu veux? C'est du jambon ou bien des œufs? Des caramels, du pain d'épices ou des martinets en réglisse?
L'épicière est une sorcière. Je l'ai vue quand elle changeait en vieux toutou de berger, le grand-père du sacristain, en disant « Fais ouah ouah, vieux crétin !» Le pauvre homme d'habitude brave avait la gueule pleine de bave. L'épicière est une sorcière. Quand la pluie tombe la nuit à grands seaux d'eau, caché derrière les rideaux. Je ne sais ce qu'elle invente pour créer le froid dans le dos, l'épouvante. Au secours, disent les enfants, faites dodo, disent les parents. Mais dodo, il ne peut pas le faire, c'est sans peur de l'épicière.
Ah, je ne fais pas mon épicière.
Charles Trenet, l'épicière, est une sorcière. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça dans ton bouquin que cette dame-là, qui, c'est la Balvardo, je crois qu'il non. C'est pas celle-là, c'est une autre.
Là, je sais pas, vas-y, continue.
Celle qui fait un peu de médecine, qui aide les femmes à accoucher,
voilà,
etc.
C'est ça.
Et donc, elle va se retrouver en prison, elle.
Ah bah, hein, elle va même...
Elle va même
retirer.
Elle va même passer de... Oui, elle va retirer. Justement, parce que, justement, elle aide les autres, alors. C'est drôle. Et ce qui est fou aussi là-dedans, c'est que les gens, quoi, le peuple, si tu veux, va suivre ce que disent les curés, et ils vont dire oui, ils vont être très contents qu'elle soit brûlée, et puis, alors qu'elle sauvait, elle aidait les gens, quoi.
Ah oui, mais c'était... il fallait de temps en temps faire des avortements. Mmh. Elle savait effectivement mettre les agneaux au monde, les petits veaux au monde, mais donc elle savait manipuler, entre guillemets, le côté vétérinaire. Donc elle savait aussi le côté matrice des femmes. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, beaucoup de femmes, il fallait pas avoir trop non plus d'enfants. C'était des fois une grosse pénalité. Donc ils y allaient, en fin de compte, en cachette de tout le monde pour se faire, entre guillemets, avorter. C'était commun. Mmh. Dans n'importe quel endroit, ces femmes-là, ces avorteuses, entre guillemets, eh bien, elles étaient des maudites pour les curés.
Sûr.
Donc, les curés, c'était un outil idéal pour pouvoir les faire retirer, les diaboliser. Et oui. Puis, les handicapés, la rayonite, c'est vraiment une femme qui a été battue ou qui a eu une déformation de vocale et elle est marginalisée, elle est humiliée. C'est une femme vilipendée par même la population insulaire, comme l'handicapé, qu'on se moque de lui. Et c'est vrai qu'elle est coupable parce qu'elle est diabolique à ce moment-là.
Elle n'est pas comme les autres.
Elle n'est pas comme les autres. Quand ce qui n'est pas normal, on tue.
Voilà. Mais il y a leurs enfants qui sont là et qui vont aller au procès à Nantes d'abord, justement, et puis après elles vont s'arranger avec Dame Jeanne de Belleville qui intervient dans l'histoire, et puis elles vont aller sur un bateau, elles vont devenir pas corsaires parce qu'en fin de compte elles vont explorer, et c'est un voyage qui va nous emmener jusqu'en Guinée.
En Afrique,
un peu vers la Guinée, par là-dedans. Et puis, ça va nous faire remonter après, mais ça, j'ai pas envie de dire la fin. Parce que justement...
Mais ce qui est intéressant, si quand même tu peux parler un petit peu pourquoi l'Afrique, c'est aussi un créneau qui était assez rigolo. C'est quand on est tombé sur une carte où il y avait marqué Petit Popo. Je dis, c'est mignon comme tout. Donc pourquoi pas le port. Et ça existe, attention, hein, c'est pas du tout une invention. Hein, c'est vraiment un port qui est très important. C'est vraiment sur le mono. C'est vraiment quelque chose de très important. Et de là, j'ai brodé, on a fait une extrapolation. Il y avait vraiment un roi. Il y avait vraiment et c'était pas des rois comme chez nous. Mm-hmm. C'était des rois, entre guillemets, élu par des sages. Mmh. C'est presque une forme de démocratie.
Bien sûr.
Différente, mais pas mal.
Mmh. Et après, elles reviennent à l'île-Dieu. Là, il y a des événements qui se passent et ça n'arrête pas. Hein. Et puis après, elles réussissent à repartir. Là, elles sont plusieurs. Et puis, il y a un menuisier dedans aussi qui fait un bateau pour l'époque révolutionnaire, quelque part. Hein. Il y a plein de choses à découvrir dans ce bouquin. Et puis, en passant d'ailleurs à Groix, c'est là qu'il donne le bateau à un autre.
Hein. Voilà.
Bien, voilà. Parce que c'est un bouquin qui est passionnant. Quand on a mis dedans, on a envie de le finir. Et c'est vrai que j'ai pas mis longtemps de le lire.
Ça c'est vite fait. Hein. Mais c'est vrai, comme disait Benoît, c'est un roman qui se lit, on va dire, de 12 à 45 ans. C'est très féminin. Hein.
Ouais,
c'est au féminin. C'est pas
ah oui, oui. C'est des filles qui mènent l'aventure.
Oui, c'est des filles qui mènent l'aventure.
C'est des vraies ilaises.
C'est des filles qui mènent leur barque.
Voir être bateau.
Attention. Hein.
Elles aiment la mer, elles aiment voyager loin, comme les îlets qui voyagent beaucoup.
Bah oui.
Et puis ces filles très modernes qui sont aventurières, inventives, combatives, il y en a qui se bagarrent très bien.
Oui.
Curieuses, instruites, très modernes pour le Moyen-Âge.
Tout à fait, oui.
Et aussi... marginalisé parce que je prends par exemple la fille de la rayonite qui est très 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 jolie, c'est une très jolie fille par rapport à ce qu'on avait décrit de sa mère, obligatoirement c'est suspect, c'est louche, jolie fille, c'est diabolique.
La preuve que sa mère était diable.
Sa mère était diable, mais en plus d'être jolie, elle a guiché, entre guillemets, pas guiché les hommes, c'est détourné de le droit chemin, bien sanctuarisé par les curés, donc on va détruire.
Voilà.
C'est pour ça que notre pauvre curé, il n'a peut-être pas tout à fait apprécié.
Oui, mais c'est... C'est vrai, on parle beaucoup du clergé, mais c'est vrai que les papes avaient quand même une... Même sur les rois, ils avaient quand même leur mot à dire, quoi, sur le royaume. Et c'est vrai que la religion était omniprésente à l'époque.
Il y avait deux religions en plus. Mmh. Il y avait la religion du roi et la religion, on va dire, des papes, entre guillemets. Mmh. C'est tout à fait différent. Deux blocs différents. En plus, ils commençaient à avoir les premiers contestataires.
Le premier, c'était des
protestants.
Bah, oui.
On était vraiment.
Ah oui, ça commençait déjà à chipoter dans les foyers. Hein. Mais nous, dans ce feuilleton, le bouquin, on suit les aventures de ces filles, ces jeunes filles là qui font quand même pas mal de choses, quoi. C'est bien. Puis il y a celui du vieux juif qui est là aussi toujours et qui continue. Lui, il pense pour l'argent, pour le commerce, quoi. Et puis pour donner quelque chose à soi, parce qu'il a fini, il finit par avoir une fille, forcément une de ses héroïnes. Et puis qui se retrouve sur un bateau. Enfin, il y a souvent aussi, j'ai dit passé, mais on parle beaucoup de la mer, hein, dans le bouquin, de bateaux, de voyages.
On voyage. Rien que le capitaine, il est turc. Oui. C'est déjà un peu incroyable. À l'époque, on s'occupait pas encore de l'Empire ottoman, donc c'était ils se bagarraient plus en fin de compte avec les Hollandais, avec les Espagnols. Ouais. On était dans le microcosme de guerre européenne. Que ouais. Après, effectivement, on s'est vengé un petit peu sur les Ottomans. Mais à l'époque, non, c'était pas encore c'est pas les gens des vues qu'on voyait mal. Donc, et c'est ça qui est intéressant. C'est lui, il avait pris une gamine qu'il avait, entre guillemets, sauvée parce que simplement elle était très rousse. Ça, c'était un symbole de son pays. Blanche de peau, rousse, rouge et blanc. Ouais. C'était vraiment le drapeau de la Turquie.
De la Turquie, oui.
Voilà, donc c'était ça aussi son but. Et puis c'était un porte-bonheur.
Oui. Pour lui, mais pour les rouquins à l'époque, c'était mal vu.
Oui, justement. Même c'est parce que pour lui, c'était un objet unique.
Mmh. Parce que le moine Vivaldi, c'est plus tard, hein, c'est comme on est rendu à ce moment-là, 17e siècle. 16e, 17e, Vivaldi. Et déjà à l'époque, le moine roux, comme on l'appelait, ça n'est pas, quoi. Déjà, c'est drôle pourquoi les rouquins ont toujours été, bien marginalisés. Pourquoi d'ailleurs
c'est bizarre. Ce qui est curieux, c'est que quand on regarde les photos des habitantes de l'île de Kinu, on trouve beaucoup de rousses.
Oui, ah, c'est drôle. Ouais.
Alors je dis, bon, allez, tout est bon.
Ouais, parce que l'île de Kinu existe réellement. Hein. On va le dire quand même. On va finir sur l'île de Kinu, parce que ça avait commencé par cette île. Et les jeunes filles, donc ces évadées de l'île d'Oya, partent sur ce bateau et vont... pas s'échouer, parce qu'elles ont cette, à la fin, c'est vraiment leur graal, quoi, aller chercher cette île où elles vont pouvoir s'établir et puis créer un matriarcat. Et c'est réel, ça, par contre, sur l'île de Kinu, c'est un matriarcat qui commande l'île actuellement, c'est ce qu'on est actuellement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce bouquin, monsieur Benoît?
Cette aventure de fille.
Oui.
On est dans l'aventure, on découvre, ça n'arrête pas, on va se promener aux quatre coins de la France, de l'Europe, de l'Afrique. On est beaucoup sur les mers.
Oui, c'est vrai.
Et c'est normal, parce que l'île-dieu, c'est un pays de marins.
Bah oui, tout à fait.
Et il y a des combats en mer, il y a des régates, des moments avec un bateau qui surfe sur les vagues.
Ouais, justement. Qui fait la nique à ceux qui, soi-disant, aux corsaires, qui voudraient les prendre, et puis ils n'arriveront pas, parce que le bateau, justement, est un peu révolutionnaire pour l'époque, et il va beaucoup plus vite que ceux des corsaires.
Et puis toutes ces jeunes femmes qui sont vraiment très modernes, qui savent être bagarreuses, on en a une qui est une espèce de d'Artagnan, qui manie l'épée quand il faut, mais qui en même temps, elles arrivent pour la plupart à rester très féminines, elles séduisent quand il faut. C'est super moderne et je trouve que c'est bien.
Pense que à cette époque-là, les jeunes étaient très vite matures.
C'était pas oui.
Voilà, quand on a 14 ans, c'est comme si qu'on avait actuellement 30 ans. Ils ont une force, ils ont un savoir de mère, un savoir, c'est hérité, c'est des filles de la mère, des filles qui ont toujours vécu dans ce milieu-là et qui se poigne en fin de compte à monter au bas et ça n'hésite pas tout. C'est comme si c'était des gamines, comme actuellement la gamine d'Orange, c'est le même état d'esprit. Là, c'est des aventurières.
Ah bah, tout le temps, faut bien savoir qu'à l'époque, on passait de l'enfance à l'âge adulte direct.
Tout de suite.
Pas trop
de sentiments.
Il n'y avait pas trop d'adolescence. C'était... Puis c'est vrai que des filles déjà étaient presque mères, enfin, étaient mères à 14 ans, chose comme ça.
Et les femmes aussi étaient des marins. Oui. Oubliez qu'on dit que les hommes étaient marins, mais les femmes de marins étaient souvent de fois à bord des bateaux et à pêcher.
Ben oui, oui,
c'est fait. Pas que les hommes qui rapportaient à manger, c'était eux-mêmes étaient des marins, et si le mari mourait en mer, et ben il continuait,
il reprenait la pêche. Chambre, voilà. Et tout ça, c'est dans ce bouquin qui est paru donc aux éditions Ilez, oui. Que vous pouvez trouver donc dans tous les sites dont on a un peu parlé, de tous ces sites, moi, je vous engage à l'acheter, à aller voir, parce que vraiment, ça vaut le coup. Et c'est vraiment un beau, beau, très beau bouquin. Ah, ça veut dire... Non, mais on reste encore, c'est la fin. Donc, on a deux minutes pour parler encore, pour se dire au revoir. Mais en tout cas, j'étais très content de vous recevoir, que vous soyez venus. J'espère que vous reviendrez, qu'on reparlera de tout ça. On pourra... refaire d'autres émissions sur les éditions Ilez, et puis sur Patrick, tu referas d'autres bouquins peut-être.
Ah, j'en ai fait d'autres.
Ah oui, mais il ne se passe pas de Lille-Dieu, donc pour le moment...
Ah non, non. Il ne faut pas faire tout le temps de Lille-Dieu.
C'est intéressant.
C'est toujours le même principe, femmes.
Alors, mesdames et messieurs, lisez ce bouquin-là, et puis après, comme ça, vous direz à l'éditeur, ouais, même si ça dépasse un peu Lille-Dieu, ça.
Et surtout, là, si je lance un appel à tous les auditeurs, oui. Si vous avez écrit quelque chose, n'hésitez pas à venir nous voir.
Oui.
On pourra peut-être le transformer en livre.
Voilà, exactement, parce qu'il y a plein de choses prévues, hein, il y a plein de chapitres... Attends, je suis en train de chercher ça.
Les collections.
Oui, les collections, il y a pour les enfants, pour l'histoire, les parties et partages, etc., les dessins. Il y aura donc différentes, pas des classes, mais des cloisons.
Des collections.
Collections
de livres.
Dans ces éditions Ilez. Moi, je souhaite longue vie aux éditions Ilez.
Merci beaucoup.
Et que ça devienne quelqu'un de bien, parce que...
J'ai fait exactement ce que tu disais. J'ai tombé par hasard sur l'écho. Oui. Quelqu'un voulait un manuscrit. Allez, pourquoi pas. Ouais. Allez, ça a marché.
Bah, merci d'être venu, d'avoir accepté de venir faire cette émission. Et puis, la radio vous est ouverte quand vous voulez.
Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis.
Merci Patrick.
Salut,
à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.